Ça fait un peu armée du salut, en fait, c'est pas ça. En fait, non. Je vais vous raconter l'histoire de ma clochette. À l'origine, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et dans ma classe, avec les enfants, il y a une clochette. Et les enfants, quand ils savent, dès qu'ils entendent la clochette, ils s'arrêtent comme des statues et ils se taisent. On va essayer? Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce premier temps de présentation courte, croisée, autour d'une thématique qui est l'apport de la gestion mentale et la question de la liberté lorsque des contraintes fortes pèsent sur les sujets. Et pour ces présentations, nous allons entendre trois personnes que vous voyez là. Nous sommes bien installés. D'abord, Virginie va nous parler de contraintes institutionnelles pour des enseignants se formant en gestion mentale. Vinciane nous parlera de contraintes de parcours pour des jeunes décrocheurs. Et Sophie nous parlera des contraintes de la maladie psychique et de l'hospitalisation en psychiatrie pour des jeunes. Alors, d'ailleurs, à ce propos, je précise tout de suite qu'il faudra... Sophie va nous faire partager sa confidentialité de soins avec ses patients. Donc, elle va nous montrer des diapos, elle va nous montrer des documents qui ont été réalisés par des jeunes. Et on vous remercie vraiment et on vous engage à ne pas les photographier. Nous serons tous dans la confidentialité. Ça me permet de rappeler au passage quand même que la gestion mentale, c'est aussi le domaine de l'intime et que c'est important de se souvenir, de respecter ce que partagent avec nous les personnes que nous accompagnons. Voilà. Donc, il y aura un petit temps, tout petit échange à la fin. Mais surtout, ça permettra que vous puissiez vous rencontrer, continuer à poser des questions et à échanger avec les trois personnes là qui vont nous parler. Virginie Matthews est enseignante et formatrice en gestion mentale en Belgique. Elle nous parle donc des contraintes de sujet d'enseignant à travers l'expérience d'une formation de grande ampleur. 256 enseignants touchés, 272 maintenant.
Non, 265, mais tu as inversé, tu as dit
265. Ah, je fais beaucoup de bêtises, hein. Regardez, j'ai même pas été capable d'écrire mon nom sans faute d'orthographe, c'est catastrophique. Oui. Donc, comme elle a dit, hein, vous vous souviendrez, voilà, et dans 24 établissements scolaires. Voilà, Virginie, à toi.
Merci Catherine, mais le micro, je ne sais pas.
Il est branché, il est branché. Faut l'approcher.
Ah, voilà.
Pour comme ça?
Comme ça, oui.
Oui, vous m'entendez?
Moyen,
moyen. Moyen.
Là-haut.
Oh là là,
je ne passe pas. Un petit peu plus près, c'est normal.
Comment?
Où? Une lumière rouge.
Oui, oui, bah oui. C'est normal.
C'est mieux? C'est mieux? Ça n'a pas l'air allumé?
Si, si. Si, si, on le voit d'ici.
Ok. Bon, j'espère que je ne vais pas loucher sur le micro. Donc j'ai déjà dit, merci Catherine. Oui. Donc trois temps dans ma présentation. D'abord un petit mot sur le projet en lui-même, donc qui entre dans sa sixième année d'existence. Et puis c'est la thématique de ces présentations croisées. Un mot sur les contraintes inhérentes à ce type de projet dans une structure scolaire, avec en corollaire des libertés qui sont déjà prises et qui pourront l'être à l'avenir. Alors un focus sur le projet d'abord. Donc on l'a organisé, je dis on parce que Hélène Delvaux qui est dans la salle donne les formations avec moi. On l'a organisé en plusieurs niveaux, vous allez voir, et on propose, et c'est l'originalité du projet, de l'accompagnement sur le terrain des enseignants. Donc l'idée c'est vraiment de les motiver à transférer la gestion mentale dans leur pratique de classe. Donc on a organisé ça sur 4 années, et ce qu'on dit aux enseignants, c'est qu'ils s'engagent dans une formation qui va leur demander un investissement assez conséquent, Donc, vous voyez, il y a 4 années, 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'initiation à la gestion mentale avec les 4 temps de l'apprentissage, les gestes d'attention et de mémorisation. En niveau 2, on complète avec les 3 autres gestes mentaux, compréhension, réflexion, imagination. Ce qui fait qu'en niveau 3, les enseignants sont équipés, si je puis dire, pour commencer à pratiquer le dialogue pédagogique de groupe. On a choisi de commencer par celui-là parce que c'est le premier terrain des enseignants, c'est la classe. Et pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, ils peuvent prolonger dans un niveau 4 qui là alors est la pratique du dialogue pédagogique individuel parce que certains enseignants ont des heures de coaching scolaire où ils peuvent justement recevoir les élèves plus en rendez-vous individuel quand ils ont des difficultés de méthode de travail. Et donc vous voyez, hein, vous en conviendrez que c'est un investissement conséquent sur 4 ans, puisqu'en tout, il y a 16 journées de formation et 10 suivis minimum sur le terrain. Il faut savoir que c'est un investissement aussi conséquent pour les écoles, puisque les directions doivent chaque fois libérer les profs quand ils viennent en formation, puisque c'est pendant les temps scolaires. Donc voilà, c'est costaud. Alors vous m'entendez parler d'accompagnement sur le terrain. On en propose 4 types. Le premier, c'est par équipe d'école, donc on le fait à la moitié de la formation. Donc c'est souvent en novembre. Je vais d'école en école rencontrer les petites équipes de profs qui se forment. Et c'est un temps de 2 périodes de cours pendant lesquelles on échange sur ce qu'ils ont déjà mis en place en termes de gestion mentale dans leur classe. Mais aussi, on parle de leurs questions, de leurs doutes éventuels. Et donc c'est vraiment un temps d'arrêt qui nourrit leur mise en projet pour la suite, puisque le partage d'idées permet d'avoir des idées de buts à atteindre différentes, des idées de moyens à mobiliser pour y arriver. C'est vraiment un temps d'arrêt qui motive, qui leur donne envie de continuer. Alors, quand le niveau est terminé, donc plus ou moins en mars, on leur propose un suivi inter-école. Donc, vous avez vu, hein, on travaille avec 24 écoles différentes, et donc on rassemble tous les enseignants d'un même niveau. Donc, vous donner une idée, cette année en niveau 1 ils sont 55, en niveau 2 ils sont 42 et en niveau 3 ils sont 28. Et on leur propose pendant une demi-journée de travailler autour d'une thématique gestion mentale et souvent on les rassemble par prof de la même branche. Donc notre objectif est de créer du réseau entre profs d'écoles différentes et aussi bien sûr de leur faire vivre le fait que l'intelligence collective permet de faire des bons qualitatifs énormes dans la mise en pratique de la gestion mentale en classe. À partir du niveau 2, je propose aussi des suivis à la carte. Donc là, c'est vraiment individualisé. Les enseignants qui le souhaitent peuvent me demander de venir travailler avec eux pendant 1 ou 2 heures. Et en général, on travaille sur une séquence de cours dans laquelle ils veulent mettre de la gestion mentale, ou ils ont créé un outil et ils veulent avoir mon avis. C'est très variable. Et puis, ils peuvent aussi me demander de venir les observer en classe. C'est ce qu'on a appelé dans le cadre du projet les classes ouvertes. Et ces classes ouvertes deviennent obligatoires en niveau 3. Enfin, je ne force jamais les portes, hein, mais... Donc, c'est un suivi pendant lequel je viens observer la pratique de la gestion mentale en classe. C'est souvent précédé d'une rencontre en amont pendant laquelle on discute de ce qui va être travaillé en classe. Et c'est toujours suivi d'une rencontre où on fait un débrief, en général à chaud, de ce qui a été en phase avec la gestion mentale et de leviers qui pourraient être activés une prochaine fois. Je vérifie quand même que j'ai dit tout ce que je voulais par rapport à ça. Donc vous voyez qu'avec ce dispositif de formation et d'accompagnement sur le terrain, on essaie vraiment d'atteindre l'objectif du transfert de ce qu'on apprend en formation vers les pratiques de classe. Alors c'est la thématique de ces présentations croisées. Il est question de contraintes dans ce type de projet. Je vais en évoquer quelques-unes avec vous, certaines liées à la posture professionnelle de l'enseignant et d'autres liées à l'institution école elle-même. Et en corollaire, je vais chaque fois vous présenter les libertés qui sont déjà prises ou qui pourraient l'être à l'avenir. Alors, premier type de contrainte liée à la posture professionnelle de l'enseignant. Je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de l'info qui est sur la DIA et après je commente. Oui. C'est bon? Donc l'enseignant, les enseignants ont l'habitude de travailler seuls dans leur classe, avec une grande liberté pédagogique, à laquelle ils tiennent beaucoup. Par ailleurs, les enseignants doivent chaque année suivre une formation continuée de minimum 2 jours, c'est obligatoire. Et dans ces formations, quand on leur dit de manière peu nuancée que ce qu'ils font en classe, c'est pas génial, et qu'ils feraient bien quand même d'essayer d'autres choses, c'est souvent mal vécu. Et donc, les enseignants résistent au changement, enfin ça je pense que c'est tout être humain qui résiste au changement, surtout quand il est imposé. Il arrive aussi dans le cadre de la formation que certaines directions invitent fermement certains profs à venir en formation, alors que nous on préfère que les profs y viennent évidemment de leur plein gré, c'est en général le cas, mais encore cette année en niveau 1, j'ai 4 profs qui sont arrivés et qui m'ont dit dès la première heure du premier jour qu'ils étaient forcés d'être là. Donc ce sont 4 profs de maths à qui la direction a dit « Écoutez, les résultats à l'épreuve externe en mathématiques à la fin du premier degré sont mauvais, donc je vous ai inscrit dans une formation en gestion mentale. » Oui. Et alors ? Oui, c'est un peu comme une punition, en effet. Enfin, dernière chose, et les enseignants dans la salle, j'imagine, ne me contrediront pas, les enseignants sont friands d'outils clés sur porte. D'ailleurs, les formations continuées qui en proposent ont beaucoup de succès en général. Et ce qu'on observe toutefois, c'est qu'après la formation, les enseignants sont super emballés et donc ils testent. Mais en général, ça dure quelques semaines. Et après, le naturel reprend le dessus pour plein de raisons qui sont tout à fait respectables. Et donc, ces outils passent à la trappe. Nous, avec le projet, on essaie de faire autre chose. On a vraiment envie que de nouvelles pratiques s'ajoutent à celles que les profs font déjà sur le long terme. Et pourtant, parce que ça, c'était tout le côté contrainte, je vous laisse prendre connaissance de la DIA. Je suis désolée, mon diapo ne se met pas tout à fait bien, mais... Donc, on a constaté, en année 3 du projet, puisque c'était la première année où on faisait un niveau 3, que sur 39 profs inscrits en niveau 3, 36 ont ouvert leurs portes. On ne s'attendait pas à un tel succès. Et dans les 36, 8 ont accepté d'être filmés et d'entrer dans une dynamique de vidéo-formation. Franchement, on était très très contents. On a lié ça évidemment au fait que je les connais depuis 2 ans, ainsi qu'Hélène, et que donc il y a une relation de confiance qui s'établit pendant tous ces mois-là. Donc pour nous, c'est un excellent indicateur par rapport à la pertinence du processus de formation et de suivi qu'on propose. Ce qu'on observe aussi, c'est que les enseignants acceptent de réfléchir sur leurs pratiques très volontiers. En général, ceux qui s'inscrivent en gestion mentale, ils sont là parce qu'ils acceptent de se remettre en question. Et une chose aussi qui nous frappe fort, c'est que beaucoup d'enseignants nous renvoient comme témoignage que ce dispositif de formation et la gestion mentale, bien sûr, redonnent du sens à ce qu'ils font. Encore la semaine passée, un enseignant m'a dit que depuis le début de sa carrière, c'était la première formation qui avait vraiment du sens pour lui, qui lui servait à quelque chose. Une autre m'a dit que la gestion mentale lui avait permis de retrouver du plaisir à donner cours. Et je vous rassure, les 4 profs de maths qui étaient obligés sont partis de 2 premières journées totalement enchantés. Donc, voilà. Et ce sens, ils le trouvent aussi dans le travail collaboratif, notamment dans les suivis qu'on leur propose, puisque les suivis, c'est souvent des partages de pratiques et d'expériences. Et donc, ils en ressortent en général très satisfaits, parce qu'évidemment, on fait des évaluations, on leur demande comment ils ont vécu les choses. Et donc, voilà, ils sont contents. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps.
10 minutes.
Ok. Très bien. Je te remercie. Oui. En tout cas, tout ça nous motive vraiment beaucoup à poursuivre le projet et à essayer de trouver encore d'autres innovations à proposer aux profs et aux écoles. Alors, il y a aussi toute une série de contraintes qui sont liées à l'institution école proprement dite. Je vous laisse à nouveau quelques secondes pour lire le contenu de la DIA. Donc en Belgique, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'occupe de l'enseignement secondaire francophone. Et ces dernières années, la Fédération travaille sur ce qu'elle a appelé un pacte d'excellence pour l'enseignement. Et évidemment, vous imaginez bien que derrière ce pacte, il y a beaucoup de réformes qui sont imposées aux écoles, ce qui équivaut, entre autres, à une charge administrative assez conséquente pour les directions, mais aussi à un travail conséquent pour les enseignants. Il y a, par exemple, des programmes de cours qui changent. On demande aux professeurs désormais de travailler en collaboratif, j'en parle un peu plus loin. Alors que, en corollaire, l'administration donne peu de moyens, ou en tout cas, elle ne donne pas des moyens de manière proportionnelle par rapport à ce qu'elle demande comme investissement aux enseignants et aux écoles. Et donc souvent dans les écoles, les directions, on peut vraiment dire qu'elles ont le nez dans le guidon, et elles ont peu de temps pour, alors qu'elles le voudraient, hein, pour encadrer leurs équipes au niveau pédagogique. Nous, évidemment, dans le cadre du projet, on aurait voulu que les directions soient vraiment derrière les profs qui suivent la formation, qu'elles les encouragent à travailler ensemble, par exemple, ou que, un autre exemple, une direction se dise, bah, tiens, ce serait intéressant que je prenne 10 profs formés en gestion mentale pour les mettre dans une classe et voir ce qu'ils peuvent mettre en place ensemble. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est difficile pour elles. Et pourtant, je vous laisse à nouveau prendre connaissance de la DIA. Donc, dans le décret du pacte d'excellence, le travail collaboratif est institutionnalisé, c'est difficile à dire. Ça veut dire que les enseignants, dans leur charge hebdomadaire horaire, doivent maintenant pouvoir rendre compte de 2 heures de travail collaboratif. Beaucoup d'enseignants le faisaient déjà sur base volontaire et spontanée, mais maintenant ça devient obligatoire pour tous. Et donc pour nous, c'est vraiment une porte ouverte, justement, par laquelle on doit entrer et voir comment on va exploiter ça. Mais c'est une porte ouverte à du travail collaboratif avec la gestion mentale en toile de fond. On espère vraiment qu'on va pouvoir faire quelque chose là. Si les directions ont le nez dans le guidon, elles soutiennent le projet, parce que depuis le début, ce sont elles qui donnent des heures pour financer mon horaire à moi. Donc mes heures ne viennent pas de la fédération, elles viennent des 24 écoles qui mutualisent des heures pour pouvoir justement financer un projet tel que celui-là. Donc, et elles le font depuis la 6e année, c'est qu'elles y trouvent du sens. Et dernière chose qui nous semble très prometteuse, c'est que dans une des 24 écoles, vous voyez, il a fallu 6 ans, il y a une école qui lance un projet pilote, donc une équipe de profs qui donne cours dans 2 classes a décidé de se former en gestion mentale et d'utiliser des outils pédagogiques communs dans ces 2 classes pour créer une dynamique de travail et de persévérance chez leurs élèves, pour qu'il y ait une cohérence dans les outils utilisés, et que les élèves y voient aussi évidemment du sens. Pour vous donner quelques exemples, ils vont utiliser la pause éducative balisée à différents moments du cours, ils vont installer des moments de mémorisation accompagnés en classe. Il faut savoir que c'est très rare que des profs fassent mémoriser leurs élèves en classe. Et ils vont aussi vérifier de manière beaucoup plus systématique la compréhension de leurs élèves, mais de tous les élèves. Parce que souvent, en classe, on a tendance à poser des questions à l'un ou l'autre, sans forcément être sûr que tout le monde a compris. Donc il y a vraiment là un travail génial de réflexion collective qui s'est mis en place avec la gestion mentale en toile de fond. On utilise aussi d'autres outils, mais enfin, pour nous, c'est aussi quelque chose d'hyper prometteur. On espère que ça va faire tache d'huile. Et donc, si je dois conclure avec le filtre de la gestion mentale, finalement, on est dans un contexte où il y a des contraintes d'un côté, mais des libertés qui sont prises de l'autre. Est-ce qu'on n'est pas là carrément dans un contexte favorable au déploiement du geste d'imagination? Et j'ai vraiment l'impression que tous les acteurs engagés dans le projet, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, réfléchir à comment s'appuyer sur la gestion mentale pour faire en sorte que, par exemple, on remette la remédiation au cœur du travail de classe et plus qu'on l'externalise de manière systématique. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Virginie.
Peut-être juste mon adresse mail si certains ont
envie de... Oui, exactement. voilà, une présentation claire et qui fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le réfléchir ensemble, l'expérience et la nécessité et l'utilité du collaboratif. Deuxième diaporama.
Alors, en attendant qu'ils se mettent en place, pour ceux et celles qui n'ont pas envie de prendre note, je partagerai ce PowerPoint sans problème. Suffira de me le demander et je vous l'enverrai.
Donc, je présente Vinciane, même si Vinciane est très connue, bien sûr, puisqu'elle vous a tous accueillis ce matin. Donc, Vinciane est praticienne et formatrice en gestion mentale. Et elle va nous présenter des jeunes contraints de par leur parcours et des jeunes décrocheurs. Voilà.
Merci. Alors, je vais partager avec vous une expérience qui a été menée dans le cadre de l'IFRA, l'Institut de formation Rhône-Alpes. Il s'agit d'une mission MAPI. Donc, un MAPI, c'est une mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation. Nous y sommes 6 formateurs et parmi ces formateurs, j'ai en charge l'histoire-géographie, le français, l'éveil à l'actualité et à la culture générale. Le fonctionnement d'un MAPI, il est d'accueillir les jeunes 5 jours par semaine. Ces jeunes reçoivent un salaire compensatoire de 35 euros par jour de présence, donc quand ils ne viennent pas, ils n'ont pas ce salaire. Nous ne disposons d'aucun manuel scolaire. Et malheureusement, le local est très vétuste et hors structure. Je vous laisse vous en rendre compte. Point de vue effectif, nous accueillons entre 12 et 17 jeunes par MAPI. Ils ont entre 16 et 26 ans. Le niveau est extrêmement faible. On oscille entre le CM2 et la 5e, ça veut donc dire 5e primaire, 6e humanité, enfin à peu près pour la Belgique. Les spécificités, ce sont tous des jeunes qui n'ont aucune qualification validée et ils sont d'origine diverse. Alors, par exemple, nous avons eu l'année dont je vous parle, un jeune en semi-détention, une jeune de 14 ans enceinte et donc émancipée adulte, une jeune fille du voyage n'étant allée que très rarement à l'école, un jeune comorien de 19 ans qui avait charge familiale de sa fratrie, plusieurs jeunes en suivi psychiatrique lourd, quelques jeunes addictifs aux jeux ne dormant que peu ou pas la nuit, ce sont des jeux en réseau, sans parler de tous ceux dont le décrochage était la conséquence d'un trouble 10, hyperactivité, TADA, tout ce qu'on veut, mais enfin qui n'avait soit pas été décelé, soit pas accompagné. Parlons de la liberté. Les jeunes, lorsqu'ils arrivent, voilà leur ressenti de liberté. Quand on le verbalise avec eux, ils se sentent totalement enfermés. Ils n'ont absolument pas conscience que, au contraire, ils sont pour la plupart dans une réalité de départ qui dépasse tout entendement. Ils sont envahissants, ils ne maîtrisent rien, c'est parfois même très difficile à gérer. Toujours parlons de liberté et positionnons-nous du côté de apprendre. Et donc, du côté des décrocheurs. Évidemment, là, je suis obligée de vous faire une liste de contraintes qui n'est pas sans conséquences. Ils sont coupés d'eux-mêmes, empêchés de penser, ce qui rend l'introspection vraiment, au départ, impossible. Ce sont des électrons libres. Ils n'ont pas reçu de cadre ou alors ne l'ont pas voulu parce qu'il était incohérent. Ils ont une inconscience d'avenir et sont totalement enfermés dans le présent. Leur image narcissique est déplorable et au début de MAPI, le « je suis nul » fuse à tout bout de champ. Il y a un manque de confiance généralisé tant en eux que dans le monde des adultes. Leur peur d'apprendre et leur pauvreté de vocabulaire engendrent souvent agressivité, impulsivité ou alors retranchement dans un enfermement et dans un mutisme difficile à ouvrir. Leur défaitisme les positionne dans un état de non-résilience Et tout ça nous donne un cocktail de contre-projets global. Ils ne sont pas en mesure de se mettre en projet d'aller mieux quand on les accueille. Il y a du blocage et de l'enfermement. Tout ça, évidemment, est un aspect très psychologique de leur état et ce n'est pas un aspect dont nous allons tenir compte en priorité. Positionnons-nous du côté d'enseigner et donc du côté des formateurs. Les contraintes ne sont pas moindres non plus. Le programme est un non-sens. Il parle de matière, de programme alors qu'on n'a pas d'outils. Pendant 6 mois de MAPI, les entrants et les sortants sont fréquents, donc on ne sait jamais qui on va avoir, qui va rester. L'effectif est lourd, hétérogène, il y a une méconnaissance des parcours des enfants, des jeunes. 6 mois de temps pour remettre sur les rails des jeunes dont certains ont décroché depuis 1, 2, voire 3 ans. Absence de matériel pédagogique et local vétuste, que vous avez vu, on pourrait croire aussi pour nous un cocktail de projet global anxiogène. Alors, on est enthousiaste et on y croit parce qu'on est 6 formateurs, on se connaît, on a de l'expérience ensemble et c'est une posture qu'on tient à adopter en priorité face aux jeunes, surtout ne pas leur faire subir toutes ces contraintes. Depuis quelques années, un entretien individuel de 1h30 est proposé à chaque jeune en début de MAPI. Il s'agit d'un TEP, temps d'écoute personnalisée. Bien sûr, confidentialité oblige, bienveillance, tact, non-jugement y sont de rigueur. C'est un temps d'apprivoisement mutuel, durant lequel il s'agit d'écouter et d'accueillir, ou même parfois d'accueillir le silence. C'est aussi un temps pendant lequel on va annoncer au jeune le projet fou qu'on a pour lui, qui est celui de lui permettre d'apprendre à se découvrir pensant bien plus que l'idée de le remettre à un niveau de brevet, le brevet étant en Belgique la 5e, non la 4e, je crois. Je ne suis pas exactement. Et même parfois, un petit projet comme ça fuse déjà à l'horizon, par exemple, accepter d'arriver à l'heure le matin, ou renoncer aux écouteurs durant les cours. Le projet de cours. Le plus important est d'être au clair avec son projet de cours, son tenant et son aboutissant. Alors venons-en à l'expérience menée. Le programme obligatoire, champ lexical et sémantique. Alors évidemment, champ lexical et sémantique, des termes qui à coup sûr feraient fuir tout mon petit troupeau. Donc, au départ, bien sûr, la visée de formatrice, c'est d'éveiller au plaisir de s'exprimer clairement et donc de séparer déjà. Je vais traiter le champ lexical à un moment et puis plus tard le champ sémantique. Et comment ? Eh bien tout simplement, avec là aussi l'intention d'enrichir le vocabulaire, je les vois sans cesse avec les écouteurs aux oreilles en train d'écouter du rap. Alors je vais utiliser ce chemin de confort. Je vais en faire une approche ludique. Et je vais un soir d'insomnie trouver l'idée de remplacer, de faire d'un poème de Rimbaud ma bohème, un rap.